Please, I can't breathe. Please, man. Please, man.
Lundi 25 mai, un noir américain de 46 ans est mort lors de son arrestation par la police de Minneapolis, aux États-Unis. Il s'appelait George Floyd et la vidéo de son asphyxie a fait le tour du monde. Pendant plus de 8 minutes, on voit l'officier de police blanc Derek Chauvin agenouillé de tout son poids sur la nuque de George Floyd. Ces images sont difficilement soutenables. Ce sont celles d'un homicide par asphyxie dû à la compression du cou et du dos. Je cite là les termes de médecins légistes qui ont réalisé une autopsie du corps de George Floyd. Le policier en cause est maintenant poursuivi pour meurtre non prémédité et les trois autres agents présents lors de l'interpellation sont accusés de complicité. Tous les quatre ont déjà été licenciés. Ces images sont à l'origine d'une vague de protestations qui secoue les États-Unis depuis 2 semaines maintenant. Je vous propose d'écouter l'animateur vedette de télévision Trevor Noah. C'est un Sud-Africain noir qui présente le Daily Show, une émission humoristique quotidienne aux États-Unis. Il s'est filmé il y a quelques jours chez lui et partage ses interrogations à voix haute sur cette arrestation et les images qu'il a vues sur Internet.
Je ne sais pas ce qui rend cette vidéo plus difficile pour les gens à regarder. Le fait que cet homme était en train de perdre la vie sous nos yeux. Le fait qu'on regardait quelqu'un en train d'être assassiné par quelqu'un dont le boulot est de protéger et de servir. Ou le fait qu'il semblait si calme en faisant ça.
L'atelier des médias, Steven Jambeau.
Bonjour André Gunther.
Bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales à Paris. Votre spécialité, c'est l'analyse des images. Avant toute chose, je voudrais qu'on s'intéresse à ces images, justement, qui ont maintenant été vues des dizaines de millions de fois, peut-être plus. Un plan séquence de plus de 8 minutes, filmé à la verticale. Une légère plongée, puisque la scène est filmée depuis le trottoir et que George Floyd est maintenu au sol par un policier blanc sur la route. Cette image, vous l'écrivez dans un billet public publié le 30 mai sur votre blog imagesociales.fr, réveille les pires souvenirs de la période esclavagiste.
Oui. Alors, on entre tout de suite dans une sorte de difficulté qui fait la particularité de cette image, que beaucoup de gens ont vue, mais qui, pour rappeler très rapidement sa composition, je suis désolé d'employer des termes formels dans un contexte comme celui-là. Il y a une sorte de paradoxe de parler d'un document et d'un témoignage comme celui-là comme d'une image. Néanmoins, c'est quand même un élément qui joue un rôle important. Donc, je rappelle simplement que à peu près un tiers de l'image en hauteur est occupé par l'arrière de la voiture de police et qui donc cache une partie de la scène. C'est important parce que la seule chose qu'on voit pendant ces 9 minutes, c'est le corps allongé par terre de George Floyd avec sous celui du policier Derek Chauvin qui lui pose non seulement un genou sur le cou mais l'autre genou sur le dos. Et donc cette image qui dure cette séquence qui dure effectivement, vous l'avez rappelé, plus de 8 minutes. Ne montre pratiquement que ça, c'est-à-dire que il y a aussi à un moment donné un autre policier qui vient essayer de s'interposer, mais globalement, donc si vous voulez, l'essentiel de ce qu'on voit se passe entre ces deux personnages. Or, le fait que l'arrière de la voiture nous cache donc une partie de la scène oblitère la réalité qui est qu'il y a deux autres policiers qui sont situés sur la gauche, et qui eux aussi pèsent de tout leur poids sur George Floyd, et donc ils sont trois en fait, hein, à le maintenir par terre, ce qui est conforme, si on veut, aux règles du plaquage ventral, mais on sait aussi que c'est très dangereux. Donc, ce que je veux dire par ce point, si vous voulez, qui formellement ne change rien au fond, hein, ni à l'aspect insoutenable de cette scène, mais c'est que cette prise de vue réduit en quelque sorte à deux personnages une action qui est un petit peu plus compliquée, et cette réduction, cette simplification de l'image, elle produit quelque chose qui est une sorte d'évocation, qui est presque une allégorie du tortionnaire blanc et de la victime noire. Et je pense que cette sorte d'accélération ou d'augmentation d'un sens de l'image qui est en lui-même déjà insoutenable et tragique, mais a contribué à l'effet et à la perception profondément inscrite dans le conflit racial américain, et donc dans une imagerie, en effet, ça a été commenté, du maître en train de maltraiter un esclave, donc une imagerie malheureusement nourrie, qui est clairement le background qui va s'imposer, notamment à la vue des Américains lorsqu'ils voient cette image.
Alors ces images sont écœurantes, on voit l'indifférence des policiers à ce qui est en train d'arriver, plusieurs passants leur disent d'arrêter, que l'homme qui est à terre est en train de mourir, qu'il faut prendre son pouls pour voir s'il est toujours vivant, mais rien n'y fait. L'horreur d'ailleurs, c'est la bande-son de ces images. On entend très distinctement George Floyd dire à de très nombreuses reprises « I can't breathe, je ne peux pas respirer ».
Oui. Donc ça, c'est alors au fond un deuxième aspect de cette séquence, qui est sa durée. C'est vrai que parmi toutes les séquences qui deviennent virales sur Internet, on a plutôt l'habitude de voir des séquences relativement courtes, qui dépassent rarement la minute, parfois deux, mais rarement au-delà. Et on a l'impression que le format court fait partie des conditions qui permettent de mobiliser l'attention sur Internet. C'est même devenu une sorte de critère de format, vous voyez, comme des séquences comme dans Brut, par exemple, qui ont ritualisé le format court parce que le contexte est celui d'une écoute sur Internet. Donc là, il faut dire qu'on est face à quelque chose qui sort du cadre et qui est cette durée. Alors, pendant cette durée, tout le monde l'a vu, l'action ne change pas, on a cette espèce de torture, hein, finalement, c'est difficile de le nommer autrement, de ce geste asphyxiant qui dure un temps incroyable. Et ça, évidemment, c'est un élément aussi qui est très puissant, parce que ce qui se passe, et au fond, personne ne peut dénier que ce à quoi nous assistons ici est une agonie, et une agonie en direct. Donc ça, c'est une chose dont il faut quand même dire et souligner qu'elle est très rare. Heureusement qu'on ne voit pas souvent des morts en direct. Mais là, il y a un caractère de preuve qui ne porte pas seulement sur la mort d'un homme, ce qui est déjà tragique, mais ce qui a relié et ce qui choque l'Amérique et le monde entier dans toutes les affaires de violence raciste et de violence policière, ce n'est pas seulement qu'il y a des morts qui sont tués par des policiers, mais c'est aussi qu'il y a une impunité des policiers qui ne sont pas poursuivis ou qui échappent aux poursuites ou qui sont licenciés, mais qui sont ces affaires sont très mal traitées par la justice. Et c'est donc la conjonction de ces deux points qui rend absolument scandaleux pour une grande majorité de gens ce type de scène. Donc vous voyez que vous avez les deux éléments finalement, sont dans cette séquence. Vous avez à la fois la mise à mort d'un homme et vous avez au fond le spectacle de l'impunité qui s'exprime ne serait-ce que par la durée, parce que rien ne vient interrompre finalement cette mise à mort, et par effectivement l'espèce d'indifférence assez incroyable des policiers qui continuent, malgré les cris de la victime et puis malgré les protestations donc des passants, dont cette passante qui filme simultanément l'action et qui proteste et qui dit effectivement « prenez son pouls ». Donc toutes ces injonctions, on a l'impression qu'elles n'atteignent pas les policiers, qui ne sont pas capables de communiquer avec cette personne, qui ne sont pas capables d'interagir de façon efficace, ni avec la victime, ni avec les témoins. Et donc, cette situation aussi d'incommunicabilité donne un caractère extrêmement étrange et véritablement affreux à cette scène qui se déroule et dont on attend qu'elle s'interrompe.
Vous venez de le dire, André Gunther, ces images ont été filmées par une passante de 17 ans avec son smartphone et diffusées sur les réseaux sociaux. C'est symptomatique de notre époque, mais cela porte également un nom, c'est le cop-watching, le fait de filmer les forces de l'ordre. De quand date ce concept ?
Alors, on peut dater autour de 1991 de l'affaire Rodney King, qui est le premier exemple qui a véritablement marqué l'histoire et les esprits, qui était donc la captation par un témoin dans une vidéo d'un tabassage d'un jeune homme noir, Rodney King. Et cette vidéo a été diffusée par CNN. Donc évidemment, à l'époque, on n'avait pas encore les réseaux qui sont les nôtres. Mais grâce à la télévision, cette image a été largement diffusée et elle a soulevé une émotion considérable puisqu'il y a eu là aussi plusieurs jours d'émeutes qui ont été provoqués par cette vidéo. Et à partir de là, une pratique s'est installée aux États-Unis, au Canada, et puis elle s'est élargie aujourd'hui dans de nombreux pays du monde développé, en Angleterre, en Allemagne ou en France, qui, donc sous le nom de cop-watching, institue voilà, cette pratique du témoignage et de l'enregistrement vidéo de pratiques policières lors d'arrestations. Donc ces scènes ont toujours le même déroulement, si vous voulez, ça se passe dans l'espace public. Par exemple, souvent lors d'une interpellation avec une voiture, donc on a ce type de scène. C'est très souvent, et le conseil du cop-watching, c'est de dire ne filmez pas vous-même, mais c'est un témoin qui enregistre, c'est un passant, c'est quelqu'un qui est là par hasard et qui va effectivement enregistrer la scène. Et donc, lorsqu'il y a des manifestations de brutalité, ça peut être aussi des insultes ou des mauvais comportements, eh bien, l'enregistrement et la diffusion de ces images, donc aujourd'hui sur Internet et sur les réseaux sociaux, est supposé donc alerter d'abord, avoir cette fonction de dénonciation de mauvais comportements, mais en théorie est supposé empêcher la propagation et la multiplication de ces comportements. Et il faut bien dire que sur ce deuxième volet, la mort même de George Floyd est un exemple malheureux qui montre que le cop-watching n'a pas produit les effets attendus de contrôle, d'autocontrôle et de pression médiatique et sociale sur les policiers pour que ces comportements délictueux cessent. Voilà, ça c'est une sorte de contradiction qui est très frustrante où d'un côté on voit bien que ces images qui sont des images fortes, qui sont des images très émouvantes, produisent un effet dans l'opinion, et ça se manifeste en particulier par ces protestations, par ces émeutes. Mais d'un autre côté, on n'a pas l'impression que la répétition de la dénonciation de ces comportements influe sur les pratiques et modifie, par exemple, en les restreignant, ce type d'action.
On va y revenir. Ce que j'aimerais aussi expliquer, et ce que vous rappelez sur votre blog, c'est qu'autrefois réservé aux seuls journalistes, la capacité à témoigner par l'enregistrement dans l'espace public est en effet une liberté et un droit fondamental. Mais vous écrivez aussi qu'on peut mourir pour avoir filmé la police.
Alors, c'est arrivé en France au début de cette année, hein, puisque en janvier, la mort de Cédric Chouviat fait suite dans des circonstances très similaires à celle de l'arrestation de George Floyd, d'une interpellation pendant laquelle Cédric Chouviat se sert de son smartphone précisément pour procéder à un cop-watching, c'est-à-dire non pas du tout une intimidation, mais une action de témoignage et de contrôle qui vise à éviter les mauvais comportements. Alors, on voit bien que c'est tout le contraire et que la vue d'un smartphone aujourd'hui chez un certain nombre de policiers est plutôt ressentie comme une provocation. Et donc, on a eu ce plaquage ventral alors qu'il n'y avait pas d'agression ou de violence particulière qui a conduit à la mort de ce livreur. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, il y a, si vous voulez, une sorte de croyance du côté des minorités, enfin une conviction plutôt, hein, et qui consiste à dire, voilà, filmer va nous sauver, va nous servir d'argument, va nous servir de preuve pour que, si les choses tournent mal, nous puissions nous retourner, par exemple, en justice, puisque, encore une fois, un des problèmes de ces comportements, c'est qu'ils restent impunis. Et on a vu, par exemple, dans le film Les Misérables, hein, vous voyez que toute la fin du film est organisée autour de cette d'images filmées par un drone et de la recherche de ces images par les policiers qui sont mis en cause et qui donc craignent effectivement pour leur carrière. Donc cette idée est en train de devenir un stéréotype et conduit, par exemple, on l'a très bien vu pendant toute l'année 2019, pendant la séquence des Gilets jaunes, à multiplier les prises de vue dans l'espace public, dans un esprit de cop-watching, c'est-à-dire au fond de protection des individus, des manifestants et des minorités. Alors, quelque chose comme ce qui arrive à Cédric Chouvia, mais aussi qui concerne beaucoup de journalistes qui ont été pris à partie, molestés, parfois frappés par les policiers lors de circonstances comme effectivement l'enregistrement de manifestations, sont très paradoxales et donc contredisent, si vous voulez, l'idée du cop-watching, puisque au fond, le fait de filmer devient un danger, met en danger les personnes qui souhaitent porter témoignage.
Ce que l'on observe depuis plus d'une semaine maintenant, ce sont des manifestations et des émeutes parfois violentes. Et vous écrivez qu'il est faux de croire que le public est vacciné contre l'émotion par l'avalanche des images. Ce que vous expliquez, si je comprends bien, c'est que le public, y compris sur les réseaux sociaux, est en mesure de distinguer la fiction, donc une production, de ce qui est documentaire, donc la restitution d'un événement.
Oui, je pense que... Alors, je relis, si vous voulez... l'observation de ce qui se passe a une problématique qui est celle du pouvoir des images. C'est une thématique qui a eu beaucoup de succès dans le monde des spécialistes, dans l'histoire de l'art notamment, et qui, depuis maintenant une vingtaine d'années, essaye d'aborder la question des images du côté de cette espèce de puissance qu'aurait l'image, en particulier en s'adressant à l'émotion plutôt qu'à la raison. Et puis, il y a une thèse contradictoire, qui est le développement de la première, et qui considère que l'avalanche des images de violence va conduire à une banalisation, à une sorte de mitridatisation, et au fait que les gens vont devenir de moins en moins sensibles, donc épuiser en quelque sorte leur sensibilité, et ne plus réagir à ces images de l'actualité. Évidemment, un cas comme celui de la mise à mort de George Floyd nous montre tout le contraire. On voit bien qu'il n'y a pas de banalisation de la violence et que ces images font réagir, continuent à faire réagir à chaque fois, à chaque nouvelle occurrence, d'une façon extrêmement forte. Je pense qu'une des raisons qui explique la non-trivialisation de ces images, c'est qu'elles ne sont pas ressenties comme des images, justement. C'est-à-dire que ce sont des documents, ce sont des témoignages, ce sont des rushs vidéo en termes techniques, c'est-à-dire des séquences non montées, non coupées. Voilà, on a effectivement l'enregistrement d'une réalité, d'une certaine vision de la réalité, et tous ces éléments conduisent, bien sûr, à cette impression. Du coup, on se dit, on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas d'effet et pourquoi il n'y a pas de modification des comportements ou des politiques. Et donc la situation se passe de la même façon en France, où nous avons eu pendant toute l'année 2019 les manifestations de Gilets jaunes, des images de violences policières, des vidéos virales qui ont tourné sur Internet, qui ont suscité beaucoup d'émotions, mais qui n'ont pas modifié la politique du gouvernement. Alors, là, je pense qu'il faut effectivement faire intervenir une autre dimension, c'est la césure qui existe aujourd'hui dans les pays démocratiques entre l'opinion et l'action publique. On a des théories de la sphère publique qui postulent que nous vivons dans des démocraties d'opinion, c'est-à-dire que ce qui se passe dans l'opinion, les passions de l'opinion sont prises en compte par le pouvoir politique. Eh bien, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a véritablement un écart entre les perceptions ou les protestations de l'opinion et la décision publique. Donc c'est cet élément, je pense, qui explique le fait qu'on se trouve devant cette contradiction et devant le fait finalement que l'alerte visuelle constituée par le cop-watching ne fonctionne plus ou ne fonctionne qu'à moitié. Et donc évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus filmer ce type de comportement, mais ça veut dire aussi qu'il faut probablement compléter cette action par d'autres leviers, par d'autres moyens, par des moyens politiques, par des moyens militants, pour concrétiser, pour inscrire, par exemple, dans l'espace de la loi, des modifications qui ne se produisent pas simplement parce qu'il y a une émotion populaire.
André Günther, il y a d'autres images qui émergent de la mobilisation actuelle aux États-Unis, celle de manifestants réclamant des policiers qu'ils s'inclinent et mettent un genou à terre par respect pour la mémoire de George Floyd. Un geste qui est inspiré de celui de Colin Kaepernick, un joueur de football américain qui, il y a quelques années, avait mis un genou à terre pendant l'hymne américain pour dénoncer les violences policières. Est-ce que c'est intéressant, justement, pour vous, visuellement, de voir cette répétition historique et le fait au final qu'on ait une histoire de genoux sur tout cela.
Oui, évidemment, c'est très significatif. En particulier, je pense par le fait que bon, ce geste a une signification très précise, effectivement, dans le contexte actuel, qui est lié en effet à la protestation de Kaepernick et donc au fait qu'il s'agit d'une protestation contre les violences policières raciales. Donc, évidemment, c'est un geste viral qui a déjà été repris à plusieurs reprises depuis 2016 et qu'il est tout à fait normal de trouver aujourd'hui dans les manifestations qui sont des protestations contre les violences racistes. Ce qui est tout à fait nouveau, c'est de le voir effectué par des policiers, ce qui montre bien qu'il y a aujourd'hui une fracture et une sorte de contradiction très forte au sein de la société et y compris au sein de la police ou des forces de police, puisque aux États-Unis, disons que l'administration de la police est assez différente de celle qui se passe en France. Voilà, donc on a ce geste qui est clairement un geste de fraternisation avec les manifestants et qui se traduit donc par un geste non violent. Ce geste d'hommage, qui est effectivement l'agenouillement, est clairement un geste qui s'inscrit dans le cadre d'un refus de la violence. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est tout à fait original aussi dans les manifestations, dont on a noté qu'elles sont multiraciales, donc elles ne sont pas limitées seulement à la communauté noire. Et de la même façon, il y a des tendances, disons, assez diverses, certaines qui conduisent au pillage, et d'autres qui préfèrent donc choisir une forme non violente. Donc c'est évidemment cette forme-là qui est adoptée par les policiers qui veulent manifester leur fraternisation avec les protestataires. Mais je trouve que cette image, elle est aussi très forte parce que, précisément, ce qu'il s'agit de contester, ce sont des violences. C'est cette forme de virilisme du contrôle policier de l'ordre qui se traduit par diverses formes de brutalité. Et donc, évidemment, ce geste d'hommage, ce geste d'humilité, ce geste d'arrêt a cette dimension de refus, de négation de la violence. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il rencontre aujourd'hui ce succès.
Pour terminer, j'aimerais qu'on parle du rôle des journalistes dans l'utilisation de ces images, et notamment des images de la mort de George Floyd. On peut signaler l'exceptionnel travail d'investigation du New York Times, qui est revenu en vidéo sur la mort de George Floyd. C'est à voir absolument. Cela utilise à la fois des images amateurs glanées sur les réseaux sociaux, donc de témoins qui, avec leur smartphone, ont filmé la scène, mais également des images de vidéosurveillance, des radios de la police. Pour le professeur, le chercheur que vous êtes en histoire visuelle, de quoi est-ce symptomatique, là encore ?
Alors, ça, c'est quelque chose de très important. C'était d'ailleurs, on peut noter qu'il y avait eu l'équivalent l'an dernier, avec des vidéos aussi de reconstitution d'événements de violences policières des Gilets jaunes qui avaient été produites par le journal Le Monde. Là aussi, sous forme de vidéo, avec du motion design et des formes de reconstitution. C'est très important parce que ce travail qui produit un travail de preuve, qui est très important, y compris du point de vue juridique, montre au fond les failles des documents originaux qui sont, je le répète, tout ça est très contradictoire. À la fois, c'est très important qu'il y ait un témoignage vidéo. Quand il n'y en a pas, l'événement sombre dans la nuit. Donc, qu'il y ait un témoignage vidéo, c'est crucial. Mais, en général, un témoignage ne suffit pas. Et la preuve, c'est qu'il faut tout ce travail de reconstitution avec des points de vue adverses. Vous voyez, le New York Times va chercher, par exemple, la vidéo, une vidéo qui a été effectuée de l'autre côté de la rue et qui complète, évidemment, d'une façon très importante, ce qu'on voit dans la vidéo que tout le monde a consultée. Donc, ces vidéos sont des documents très importants, mais ce sont des documents incomplets. Et il faut faire un travail. C'est aussi, je dirais, ça devrait être un signal pour tous les journalistes. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de montrer ces vidéos, de les rediffuser et de les commenter, hein, ce qui est parfois le traitement qu'on observe sur les chaînes d'infos. Non, ces vidéos sont des sources, mais on peut faire un travail journalistique très important, et c'est le cas effectivement du New York Times, ou en France, ce qui a été produit par Le Monde, et c'est capital parce que là, d'un coup, en effet, d'autres éléments apparaissent, et ils sont constitués, ils sont appuyés sur la force de la documentation visuelle.
Et ce qui est très intéressant d'ailleurs, on peut le signaler, c'est que la voix off, la journaliste du New York Times qui décrit les images, n'hésite pas à plusieurs reprises à dire « on ne sait pas ce qui se passe après, on ne voit pas ce qui se passe derrière telle voiture, etc. etc. » Donc avec les très nombreuses zones d'ombre.
Non, mais là, c'est vraiment une culture du New York Times sur ce type de reconstitution qui montre justement, hein, voilà, on est là dans un journalisme déjà très affûté, qui est assez impressionnant dans les résultats qu'il produit. Moi, j'aimerais beaucoup voir plus souvent ce type d'investigation, hein, qui, donc, encore une fois, ne se limiterait pas simplement à reproduire les sources vidéo, par exemple, du cop-watching, mais apporte un travail de preuve et de construction qui est absolument indispensable compte tenu de la nature de ces documents.
Merci beaucoup André Günther.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en histoire visuelle à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales. Je vous dis à bientôt dans l'atelier des médias de RFI.
À bientôt, merci.
C'est ainsi que s'achève cette émission. Si vous l'avez attrapée au vol à la radio, sachez que vous pouvez la réécouter dès maintenant et en version longue en podcast. Simon Decreuse était comme chaque semaine à la réalisation. Je m'appelle Steven Jambot et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.